Le futur, c'est la seule des trois dimensions qui l'occupe, aux côtés du passé et du présent qu'on n'a pas encore vécu ou qu'on ne vit pas actuellement. Dans l'imaginaire, le futur, c'est le vecteur de l'espoir, des champs de tous les possibles, c'est une source inépuisable d'inspiration. On ne compte plus le nombre de films, de séries, de romans ou d'autres créations artistiques qui dépeignent tantôt un futur qui est utopique, tantôt de terreur, c'est la fameuse dystopie. Au début des années 1960, le studio états-unien de production Hanna-Barbera lance sa série Les Jetsons. Un dessin animé d'une famille américaine qui vit dans un futur rempli de voitures volantes, de bâtiments aériens, de technologies de télécommunications magiques pour l'époque et de robots domestiques. Idem du côté de Ulysse 31 qui reprend en 1981 le mythe de l'Odyssée d'Homère à la sauce du 31e siècle.
Le 31e siècle.
Robots conscients d'être et vaisseaux spatiaux sont au programme. On peut aussi citer Dune, écrit en 1965 par Frank Herbert, dont l'intrigue prend place au 102e siècle, retour vers le futur avec les overboards et toutes les promesses technologiques montrées à l'écran, ou encore Doctor Who avec le voyage spatio-temporel qui amène les protagonistes à découvrir des futurs à l'apparence utopiste qui, lorsqu'on gratte la surface, souvent cache une réalité tout autrement dystopique. Dans le genre dystopique, justement, on peut penser à Demolition Man, une société en apparence utopiste dont Sylvester Stallone révèle les manœuvres malhonnêtes.
Il ne sait pas se servir des trois coquillages.
Idem avec Brave New World, le meilleur des mondes, en français, d'Aldous Huxley. Finalement, l'utopie des uns, de celles et ceux qui jouissent du système décrit, est la dystopie des autres, de celles et ceux qui ne tirent pas l'épingle de ce jeu. Un point de vue interne aux perdants de ces sociétés fictives du futur qui est d'entrée de jeu dépeinte dans Blade Runner et ses villes surpolluées, en surpopulation et dont les espaces naturels ont disparu depuis bien longtemps, ou alors dans le récent Alien Romulus sorti en 2024 qui débute sur la vie misérable d'une jeune femme de 25 ans contrainte à travailler dans des colonies minières en 2142 et qui rêve de s'en extraire pour retrouver sa liberté. Et à ce stade, on ne parle même plus de George Orwell avec 1984, fameux roman dystopique, pour l'époque d'anticipation étant donné qu'il est sorti en 1950. Et des airs de futur qui parfois se passent dans une temporalité qui est fort lointaine, dans le passé comme pour Star Wars de George Lucas, ou encore le roman La nuit des temps de René Barjavel qui est sorti en 1968 et qui dépeint une civilisation vieille de 900 000 ans, retrouvée en Antarctique à notre période contemporaine, ou encore on peut penser à la civilisation des anciens dans la saga télévisée Stargate qui construisait à l'époque des portes des étoiles qui donnent leur nom à la série, à travers les galaxies et même vers des cités futuristes à l'image d'Atlantis dans la galaxie voisine de Pégase. On en arrive à des narrations qui remettent en cause le caractère linéaire qu'on se construit dans l'imaginaire de nos sociétés occidentales, d'une évolution qui part des âges primitifs, la préhistoire, le passé lointain, pour aller inexorablement vers le mieux, la technologisation, l'amélioration de nos sociétés et de l'humain, le futur tel qu'on l'imagine dans nos imaginaires. Selon ces narrations, l'idée qu'on se fait du futur a bel et bien existé, mais dans le passé. Une autre série télévisée va plus loin dans l'idée, Battlestar Galactica, à l'antenne de 2004 à 2009, introduisait l'idée que l'évolution civilisationnelle est cyclique, elle est ponctuée de moments de développement intense qui nous amènent jusqu'à l'exploration spatiale, et d'autres phases d'effondrement, de perte totale, de l'accumulation des connaissances et des compétences détenues par la dite civilisation, reprenant tout de zéro, pensant parfois même être la première forme de vie intelligente vivant sur sa planète ou son coin de l'espace.
Je suis même probablement assez allergique à la science-fiction.
Magali Desbazeilles, artiste plasticienne.
La science-fiction, qui est justement extrêmement genrée et codée de façon catastrophique et qui véhicule, pour moi, c'est souvent un rouleau compresseur de stéréotypes de genre. Pas tous, hein, certainement, mais de ce que j'en connais.
Magali a raison. Je me souviens avoir été gêné à la lecture du premier tome de Fondation, l'iconique saga de Isaac Asimov. Outre la construction narrative assez particulière, en lisant, je sentais que quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Jusqu'à l'apparition d'un personnage vers la fin du premier volume, une impératrice pas très futée qui ne me donnait pas l'impression d'être capable d'aligner quelques idées en réflexion. Et là, tout était devenu clair. Il n'y avait pas une seule femme dans l'intrigue du roman d'Isaac Asimov jusqu'à ce moment donné. L'impératrice était la seule protagoniste femme du premier livre de Fondation, secondaire, qui plus est, et ce n'était clairement pas elle qui avait inventé le fil à couper le beurre. Idem, de toutes les œuvres fictionnelles que je vous ai citées, toutes ont été produites par des hommes ou avec des hommes comme personnages principaux. Mais revenons-en à Magali Desbazeilles. Elle est artiste, en résidence artistique au Bouillon, la salle de spectacle de l'Université d'Orléans, et durant toute la saison, elle a construit une base de données sonores, de voix, une véritable boîte à témoignages de générations d'aujourd'hui, dont des étudiants de l'université qui confient leurs craintes, leurs espoirs, leurs rêves quant au futur. En 2050, quand j'avais 20 ans, explore ce rétro-futurisme d'un futur qui est encore plus lointain de 2050, puisque ce sont des personnes qui se souviennent d'avoir 20 ans en 2050, qui fera le bilan de ce qui nous attend dans 25 ans.
En l'an 2000, quand j'avais 20 ans, on croyait à l'accès massif à la connaissance grâce aux forums de discussion.
En 2025, quand j'avais 20 ans, on croyait qu'il n'y avait pas besoin d'imaginer le futur.
En 2025, quand j'avais 20 ans, on pensait qu'à cause des IA, on ne pourrait plus croire aux images ni aux vidéos et que ça serait la mort d'Internet.
En fait, je ne sais pas si je travaille tant que ça sur le futur. Je pense que je travaille plutôt sur notre époque et comment on regardera notre époque dans quelques décennies. Je ne fais pas partie du tout des artistes qui sont proches de l'univers de la science-fiction, pas du tout. Donc moi, je m'intéresse plus à questionner le futur pour regarder notre époque. D'où le titre un peu paradoxal de « En 2050, quand j'avais », comme si on était en 2070. Enfin voilà, ça joue comme ça d'anachronisme.
En l'an 2050, l'IA est utilisée pour sauver la planète et restituer les ressources naturelles épuisées par l'homme.
En 2050, quand j'avais 20 ans, on croyait qu'on allait vers la fameuse singularité technologique. Alors, pas celle auquel on pense, pas celle qui a une conscience. Mais ça serait quoi, le point de bascule entre le réel et le virtuel ?
Alors, si la science-fiction ne fait que perpétuer des inégalités de genre, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mieux en faire un pas de côté, de dézoomer un petit peu, de s'en éloigner, si on veut imaginer un futur plus désirable ? De quoi pouvons-nous alors nous nourrir en toute sérénité pour alimenter notre imaginaire et continuer d'avoir envie d'avancer ? Comment embellir le futur pour rendre désirable, créer l'envie d'agir vers un objectif commun ? Génération plus 3 degrés. Épisode 7, les futurs. Le point de départ de mon enquête part du constat qu'aujourd'hui, dans cette deuxième partie de la décennie des années 2020, il n'y a plus de marche pour le climat comme on les voyait apparaître il y a une dizaine d'années avant le Covid. De la même manière, j'entends de moins en moins parler des mouvements autour du zéro déchet et autour de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Par exemple, sur le campus d'Orléans, il y avait une association qui était dédiée à ces questions et avec laquelle nous avions un partenariat d'antenne à Radio Campus Orléans, et elle s'est vidée doucement de ses membres avant de se mettre en sommeil. Je sais que lorsque la présidente de l'époque de l'association me l'a annoncé, ça m'avait fait un choc. Je me suis sérieusement demandé si c'était pas la fin d'un processus de prise de conscience et si on n'était pas en train de revenir en arrière sur les questions environnementales. Est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que les questions de lutte pour le climat ne se seraient pas retrouvées, reléguées en second plan ces dernières années ? Est-ce qu'il y a vraiment un essoufflement et un désengagement citoyen à cet égard pour que je le ressente à ce point ? Pour essayer de le savoir, on va revenir un peu en arrière.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Le 12 décembre 2015, les accords de Paris pour le climat sont signés par 197 pays du monde qui représentent 97% de la production des émissions d'origine humaine responsables du réchauffement planétaire.
C'est une grande victoire pour l'humanité parce que le monde a su se rassembler aujourd'hui pour faire une promesse aux générations futures.
Pour le lycéen que j'étais à cette époque-là, c'était le signe d'une prise de conscience sans précédent des gouvernements et qu'à partir de ce jour, le monde irait de mieux en mieux et qu'on arriverait à éviter la catastrophe. On était sauvés, en tout cas du point de vue d'un jeune de 16 ans que j'étais à ce moment-là. Mais l'espoir a vite laissé place à la déception. Ça, on en parle un peu plus loin. En parallèle de tout ça, des mouvements citoyens se créaient ou se renforçaient autour de pratiques plus éthiques et responsables. Ayant grandi dans les années 2000, j'ai été baigné, comme beaucoup d'autres enfants de cette génération, dans la culture des éco-gestes citoyens. Ceux qui disaient par exemple « éteins la lumière quand tu quittes une pièce, ferme le robinet quand tu te brosses les dents, va à la boulangerie à pied plutôt qu'en voiture si elle est à moins d'un kilomètre, etc. etc. » Sans parler de la multiplication des produits labellisés bio, qui faisaient rêver toutes les mères de famille, avec des promesses de mieux manger dans des suremballages plastiques bourrés de perturbateurs endocriniens.
Je lui donne bio, au bifidus actif.
Aussi, J'étais dans un collège labellisé éco-collège, donc j'ai passé 4 années à être sensibilisé sur la question environnementale. Je pensais alors tout savoir et être prêt à changer le monde, à mon échelle individuelle, en changeant nos vieilles ampoules incandescentes par des éclairages LED, typiquement, par exemple. Puis, ce que j'ai vu apparaître dans mon paysage au cours des années 2010, ça a été des magasins d'un nouveau genre. Les épiceries en vrac qui répondaient à la demande croissante d'un public d'acheter leurs produits sans emballage, venant en boutique avec leur propre contenant, en verre ou en métal de préférence. Objectif, éviter le plastique et ses échanges moléculaires nocifs, les fameux perturbateurs endocriniens encore une fois. Ce mouvement de réduire la production de déchets et, par la même occasion, de réduire l'usage du plastique, ça porte un nom, c'est le zéro déchet. Et il y a des associations qui voient le jour un peu partout, comme Zero Waste France par exemple. Ce collectif citoyen, bien qu'il existe depuis 1997, n'a pris le nom qu'on lui connaît aujourd'hui de Zero Waste France qu'en 2014.
Eh bien bonjour, moi c'est Maxime de Zero Waste Orléans, je suis trésorier de l'association.
Je suis Alix, je suis secrétaire de l'association depuis 2 ans maintenant.
Et j'ai justement rencontré Maxime et Alix de Zero Waste Orléans, qui est une antenne locale de l'association nationale.
En fait, il y a toute une démarche, je dirais il y a des grands piliers. Le fil rouge serait en effet de limiter le jetable, arriver à réduire et trier les biodéchets, ce qui n'est pas chose facile au sein d'une ville par exemple. Allonger la durée de vie des objets. Donc ça c'est pareil, on a quelque chose de cassé, de troué, l'idée c'est réparer, recycler ce qui n'a pas pu être évité. Et on a également pour finir la lutte contre les traitements polluants, donc là on serait peut-être plus un peu plus sur du militantisme entre guillemets. Puis ensuite il y a l'idée de trouver des leviers incitatifs. Ça c'est vraiment ce que prône entre guillemets Zero Waste France. Et ensuite, nous, les groupes locaux, on essaie à notre échelle et selon le nombre de bénévoles ou même de salariés, parce que certains sont salariés d'asso, d'appliquer un petit peu ces grandes lignes et de réussir à les diffuser surtout.
Toute une philosophie de vie, finalement, qui pouvait s'accompagner du besoin de minimalisme aussi. On peut citer par exemple Bea Johnson, c'est une blogueuse française installée aux États-Unis qui a beaucoup écrit sur le sujet. Chez elle, c'est simple. Une maison blanche, vidée de tout superflu, qui invite à la paix intérieure et à la reconnexion avec l'essentiel. Le minimalisme, c'est un concept qui devint un véritable phénomène de mode avec des émissions de télé-réalité mettant en scène par exemple Marie Kondo, qui vidait les maisons des participants de tout ce qui avait été accumulé au fil des ans, triant les objets à garder en fonction du bonheur qu'ils nous procuraient réellement. Au bout du compte, le minimalisme promettait un gain de temps, une réduction de la charge mentale, et couplé au zéro déchet, des économies non négligeables pour un meilleur niveau de santé, puisqu'on réinvestit les économies normalement dans de la nourriture locale, de saison, de meilleure qualité, plus savoureuse, en plus de gagner finalement en vitalité.
Avant Covid, on entendait beaucoup parler, et c'était impossible de passer à côté des discours politiques environnementaux. C'est venu, je pense, personnellement à moi à peu près à cette période-là, à peu près avant Covid. Moi, j'étais pas trop zéro waste avant de rejoindre l'association. Pour être honnête, je vivais normalement. C'est l'association qui m'a aidé qui
ça
m'a
veut
aidé.
Dire quoi, vivre normalement?
C'est vrai. C'est vrai. Je faisais pas attention du tout. J'achetais tout en supermarché, en plastique. Je faisais vraiment pas du tout attention à ça. Alors que maintenant, acheter un produit, ne serait-ce que suremballé, c'est même plus possible, quoi.
Et personnellement, je pense que j'ai toujours été sensible à la cause parce que ma mamie... j'ai grandi avec une mamie qui fait son jardin, qui ne met aucun traitement, qui a toujours eu ce discours finalement de j'ai ma salade dans l'assiette et il n'y a aucun... Enfin, tout est bio, il y avait encore des limaces dessus avant de la nettoyer. Et puis, j'ai habité à Paris 7 ans. Et bah, Paris, bien sûr, je pense, a un peu... Enfin, c'est même certain, ça a réveillé ce besoin de retrouver quelque chose de moins... Comment dire ? Enfin, le plastique est partout, même dans la rue, par terre, quoi, c'est sale. Et je pense que j'en ai eu inconsciemment, avant tout, un ras-le-bol. Et puis, je m'étais, de moi-même, avant de rejoindre Zero Waste Paris, du coup, engagée auprès d'un petit jardin partagé où j'avais mon bio-seau. Je mettais mes épluchures et voilà, tous les dimanches, je m'amusais, j'adorais ça d'ailleurs, retrouver cette petite parcelle de verdure et d'aller y mettre. D'ailleurs, je me souviens que je revenais de là et j'avais enfin, du terreau, mais en fait, j'avais nulle part où le mettre parce que j'étais à Paris, donc je le ramenais à ma grand-mère. Enfin voilà, du coup, moi, c'est comme ça que c'est venu. Je pense que c'était le fait de vivre dans une grande ville où trop, en fait.
Ouais.
Trop.
Les années 2010 ont aussi vu la prolifération des friperies, des boutiques qui témoignent d'un intérêt pour les vêtements et plus largement pour les objets de seconde main. Ce marché qu'on appelait alors d'occasion, dont le public était alors davantage celui des personnes les plus précaires qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter du neuf, s'est retrouvé propulsé comme nouveau phénomène de mode auprès du public avec plus de moyens, qui jusque-lors rechignait davantage à l'idée d'acheter un vêtement déjà porté par un inconnu. Un phénomène de mode tel que rapidement on trouvait dans des friperies des vêtements à des prix tout aussi élevés que d'autres neufs dans les magasins de la grande distribution. C'était le revers de la médaille, mais est-ce que finalement c'était pas un mal pour un bien? Puisque finalement, on pourrait se dire que si ces questionnements sont devenus phénomènes de mode, c'est que la communication autour des pratiques plus durables touche un large public, ou en tout cas tend à se démocratiser auprès du plus grand nombre, et qu'il ne serait plus qu'une question de temps avant que tout le monde ne découvre les bienfaits d'un tel mode de vie avant de l'adopter définitivement. Non ? Finalement, peut-être pas.
L'idée, je dirais, c'est plutôt de sensibiliser ou d'interpeller du moins les politiques pour que potentiellement des actions soient faites, que les discours changent et qu'ils mettent en place des choses à leur échelle et non pas que ce soit uniquement aux citoyens de le faire.
Et là, il y a un petit truc qui s'opère, c'est qu'on passe de la lutte individuelle à tout doucement la lutte à l'échelle collective. En parallèle, des marches pour le climat étaient organisées dans de nombreuses villes en France et en Europe. Des marches qui s'inscrivaient dans un mouvement plus global de prise de conscience et de politisation des citoyens sur la question environnementale. Je pense évidemment à Greta Thunberg et les grèves étudiantes pour le climat qu'elle a lancées depuis la Suède, suivies par des millions de lycéens, collégiens et étudiants. On est alors en août 2018 et la revendication de cette nouvelle génération de grévistes est claire, exiger de la part des gouvernements signataires des accords de Paris le respect de leurs engagements.
This is all wrong. I should be back in school on the other side of the ocean. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones.
Et fin décembre 2018, coup de tonnerre.
Pour les associations à l'origine du recours, l'État est coupable de renoncement, par exemple son recul sur la taxe carbone. Elles affirment que la France n'a pas respecté la loi qu'elle s'est elle-même fixée.
L'État français est mis au pied du mur avec l'affaire du siècle. C'est une opération juridique qui visait à poursuivre l'État en justice pour une action climatique pilotée par quatre associations. Il y a la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France. Elle était accompagnée d'une pétition citoyenne de soutien qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Le tribunal administratif finira en 2021 par reconnaître la faute de l'État et le versement d'un euro symbolique en dédommagement. À l'automne 2018, quelques semaines après le début des marches pour le climat, un mouvement de manifestation sans précédent émerge en France, les Gilets jaunes. Dans la rue pour alerter sur la hausse du prix des carburants qui étrangle d'autant plus le pouvoir d'achat des plus précaires, sur les cortèges et les ronds-points, des pancartes et des slogans apparaissent et indiquent qu'il y a désormais une convergence des luttes climatiques et sociales.
Effectivement, il y a cette question de fin du monde ou fin du mois.
La personne que vous entendez, c'est Jules Musard. Il est président du Gâtinais Libre, une association culturelle engagée pour une ruralité collective, joyeuse et alternative sur le territoire du Gâtinais, un ancien département. Aujourd'hui, à cheval sur l'ouest du Loiret et les départements plus au nord-est.
Les gens pensent plus à la fin du mois qu'à la fin du monde, avec des préoccupations très très terre-à-terre sur le fait que ils n'ont plus assez d'argent à tel jour du mois pour aller faire leur plein, évidemment une situation de crise actuelle aussi, pour aller faire des courses, pour pouvoir partir en vacances. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont quasiment jamais, qui ont parfois jamais quitté le Gâtinais de leur vie pour aller en vacances, ça c'est une vraie réalité.
C'est quoi votre rapport justement à la politisation, au militantisme? Est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur?
Enfin, pour moi, ça ne devrait pas être militant que de faire attention à son environnement de vie, à ce que l'on mange. On devrait avoir accès à des choses bonnes et pas chères d'ailleurs, parce qu'à l'époque, finalement, tout était bio, à l'époque, et pas cher, accessible. Aujourd'hui, le bio, c'est un produit qui est très cher.
Ce qui en ressort, c'est que la lutte face au réchauffement climatique ne peut pas être conçue sans l'humain en son centre. L'humain est responsable de cette montée de la température, de par son activité industrielle intense qui a mis à mal l'équilibre atmosphérique, mais surtout, si on souhaite limiter la hausse du thermomètre, c'est surtout parce qu'on souhaite continuer à vivre confortablement dans le futur, nous, humains. C'est pour nous qu'on fait tout ça. Et je pense que c'est important de le rappeler. Parce que c'est pour ça qu'on vous parle depuis 6 épisodes, dans Génération plus 3 degrés, de l'effet du réchauffement climatique sur l'humain et sur les populations les plus exposées aux inégalités systémiques, qui ne feront que s'accentuer avec la raréfaction des ressources. On ne peut pas penser la lutte contre le réchauffement climatique sans repenser les rapports entre les individus dans la société. À ce moment-là, le chemin était encore semé d'embûches, mais praticable. C'était sans compter 2020 et les années qui ont suivi. Et puis, 2020.
L'Asie est en alerte maximale.
Le Covid.
Elon Musk a réussi à prendre.
Elon Musk rachète Twitter en octobre 2022.
Le robot ChatGPT-3.
La première version accessible au public de ChatGPT en novembre 2020. TikTok, application la plus téléchargée en 2023 dans le monde.
Le choc des élections européennes de juin 2024 avec la montée du Rassemblement national.
Donald Trump réélu président des États-Unis d'Amérique en novembre 2024.
Le rachat de l'école supérieure de journalisme de Paris par Vincent Bolloré, Bernard Arnault et consorts.
L'annonce par l'Arcom du renouvellement et de la création de chaînes sur la TNT, détenue par des milliardaires proches des partis nationalistes très conservateurs, dont la déontologie journalistique est dénoncée.
Fin septembre 2025, OpenAI sort Sora, un modèle génératif de vidéos plus réaliste que jamais, gommant inexorablement la frontière entre le réel et la manipulation des images.
Dans le même temps, l'administration Trump n'hésite pas à utiliser les modèles génératifs d'images pour modifier les photos des personnes arrêtées par la ICE, modifiant en toute impunité les traits de leur visage, comme ceux de Nekima Levi Armstrong, avocate arrêtée dans le Minnesota à la suite d'une manifestation. Pour la faire apparaître ensemble.
Bref, tout un tas de nouveaux problèmes s'ajoutent par-dessus les questions environnementales, diluant le temps et l'énergie qu'on peut y accorder, tout en les aggravant.
Alors, ce que je remarque, c'est un usage massif de la part des étudiants, un usage massif surtout de ChatGPT, peu d'autres large language models, hein, ils sont vraiment sur ChatGPT, un peu Gemini, pas Mistralea qui est le LLM français. J'ai des réponses où effectivement certains imaginent que l'IA va nous aider à réguler tout le problème climatique, et j'ai ceux pour qui l'IA ça correspond à utiliser un feu pour éteindre l'incendie. Donc j'ai vraiment les deux types de réponses concernant l'écologie. Aucun, ou très peu, peut-être deux, trois, limitent leurs usages par rapport à leurs convictions écologiques, mais pas plus que ça. C'est très loin, en fait, hein, pour eux. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on a dans le smartphone, dans la poche, et puis l'impact écologique, c'est invisible. Donc, très peu limitent leur usage par rapport à ça. Une personne, par exemple, une étudiante le dit, je refuse d'utiliser l'IA par rapport à mes convictions écologiques, mais la phrase d'après, elle dit que grâce aux réseaux sociaux, elle peut rester en lien avec son compagnon. Le projet de société derrière ces LLM n'est pas du tout questionné, on est vraiment sur de l'usage individuel, sans penser plus que ça à comment sont produites ces IA, un peu l'impact écologique quand même, il y a une connaissance de l'impact écologique, un peu culpabilisant, mais qui ne freine pas, mais la notion de click worker qui alimente ces IA n'est pas questionnée, la dimension politique n'est pas questionnée non plus, pas plus que ça.
Entre l'IA, ces data centers gourmands en ressources qui sont des catastrophes environnementales décriées, le recul des droits sociaux et la répression des manifestations et soutiens environnementaux, tout semble s'être accéléré, mais dans la direction opposée à celle de la défense du climat. D'ailleurs, c'est l'arrivée du Covid qui a mis un terme au mouvement des Gilets jaunes, pas un apaisement des militants à la suite de décisions gouvernementales.
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit exactement ces dates-là. C'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait, ça a fait tilt. Parce que moi, au contraire, j'aurais dit que le Covid a permis de lancer le... Alors, peut-être avant, bien sûr, avec des grandes figures. Mais je dirais que sur une échelle le plus individuelle, Covid a permis en tout cas d'appuyer le vrac. Un retour au DIY, un retour à on consomme proche de chez nous parce qu'on n'avait plus le droit de se déplacer du moins. Et après, je pense que ça a bien duré encore deux, trois ans après. Et par contre là, maintenant, je dirais, parce qu'aujourd'hui, toutes les boutiques vrac ont fermé. Via la loi AGEC, il y a toujours en effet cette idée que 20% de la surface des grandes surfaces soit réservée au vrac.
Au vrac, mais elle a été repoussée, je crois.
Ah ouais, oui, bah voilà, du coup. Donc en fait, là, il y a toute une dynamique ces dernières années où ça tombe nettement. Et moi, je pense que... Enfin, en fait, les lobbies ont eu raison du vrac, quoi.
C'est vrai qu'en fin de Covid, il y avait beaucoup de gens qui étaient plus sensibles à la cause que maintenant.
Ouais.
Après, lié à quoi il y a eu beaucoup de choses depuis la fin du Covid. Hein. Depuis, moi, je dirais environ la guerre en Ukraine. où les prix ont commencé à monter.
Donc c'est 2022.
Ouais. Et les prix ont commencé à monter partout, tout a explosé, et c'est là que les gens ont un peu... Je suis pas un pro de l'économie, mais c'est vrai que c'est le moment où tous les prix ont commencé à flamber, tout était à cause de l'Ukraine, et c'est là que les gens ont plus du tout fait attention à ce qu'ils consommaient, ils ont acheté.
Ouais.
Parce qu'il faut pas oublier que c'est bien le collectif, mais individuellement, en fait, il faut savoir que c'est nous qui dirigeons comment sont faites les choses, c'est les consommateurs. C'est-à-dire que si chaque personne arrête d'acheter des produits suremballés, ils vont arrêter de le faire.
Ouais.
Donc c'est bien de colporter des messages pour essayer juste de sensibiliser quelques personnes et que le truc prenne, la mayonnaise prenne. Comme quoi c'est les consommateurs qui au final ont le dernier mot, si on s'unit tous et qu'on consomme mieux. Dans ce cas-là, ils peuvent faire autant de lobby qu'ils veulent, c'est les consommateurs qui gagneront.
Ça, je suis d'accord avec toi, et d'ailleurs ça s'est vu pour le vrac à un moment donné parce que ça prenait de l'ampleur. Mais je pense qu'on est une minorité à penser comme ça. Et moi je le vois dans mon entourage, j'ai beaucoup de mal, mon entourage proche, à convaincre parce que, ça c'est l'un des premiers arguments qui ressort toujours, c'est mais en fait à mon échelle, à quoi ça sert ? Et parce que personne ne voit, mais c'est là que c'est intéressant du coup de rejoindre un collectif, une association, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que potentiellement ça peut avoir un impact, mais je pense qu'on est vite démotivé finalement.
Ouais, c'est clair.
Un peu seul contre tous.
Donc, on récapitule. Si on veut régler la question de l'égalité des personnes face à la montée du thermomètre, on doit se pencher sur la question des inégalités sociales de manière générale dans la société hors crise climatique. Et la question de la capacité économique des individus, elle est centrale. On en arrive ainsi à la question de la domination d'un groupe d'individus sur un autre. Elle peut prendre plusieurs formes, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la grossophobie, et j'en passe. L'idée est à chaque fois de créer un contrôle de l'individu en assayant une supériorité à son égard. Et c'est visiblement la même chose avec la domination économique. Je contrôle ton porte-monnaie, donc je contrôle ta consommation. Consommation de produits alimentaires, vestimentaires, mais aussi de produits culturels et informationnels. Et justement, le contrôle de l'information. Avec l'arrivée des algorithmes générateurs d'images et de vidéos plus vraies que nature, la frontière du réel est plus que jamais floue. La réalité, elle est brouillée. On crée le contrôle en faisant perdre la confiance que le citoyen peut avoir avec ce qu'il voit. Sans compter que les algorithmes des réseaux sociaux sont contrôlés par un petit groupe d'hommes milliardaires américains et d'autres milliardaires, cette fois français, qui concentrent une grande partie des titres de presse grand public. En décembre 2024, le média indépendant Basta faisait état que 93% des journaux vendus en France sont possédés par 5 oligarques. 4 concentrent 56% des chaînes de télévision et 3 détiennent 50% de la part d'audience radio. Quand on a une telle mainmise sur la fabrique informationnelle, il devient simple de faire pencher la balance de l'opinion publique du côté qui arrange ceux qui la possèdent. Des algorithmes de plus en plus puissants, des réseaux sociaux qui aspirent de plus en plus notre attention, on pourrait vite perdre espoir et penser que ce sursaut citoyen, nécessaire face à la montée du thermomètre, ne fait que s'éloigner de plus en plus de nous. Que de plus en plus on est voué à ne plus lever la tête de nos écrans et à se laisser porter par ces images qui agitent nos petites dalles lumineuses à l'extrémité de nos bras.
Et vu que tu vois quelqu'un qui prédit le futur, tu pourras lui demander pourquoi dans toutes les fictions du futur, il y a une question de déchets à chaque fois.
C'est-à-dire
tu prends n'importe quoi.
Wall-E.
Tu prends Wall-E, tu prends Idiocratie, tu prends Ready Player One, ça se passe dans une décharge. Tu prends tous les films futuristes, il y a une notion de déchets. Comme si c'était un peu un code, l'humain sait mal gérer ses déchets et ça posera problème plus tard. Et ça, c'est dans toutes les fictions, t'as toujours un truc de déchets.
On serait donc voué à finir comme ces humains du futur, dans Wall-E, à être tellement absorbés par nos écrans qu'on ne verrait plus la réalité autour de nous. On serait voué à détruire notre planète et peut-être s'envoler vers un autre monde dans les confins de l'espace. À moins que, il faut que je sois honnête, se contenter de dresser ce portrait sombre serait oublier toutes les mobilisations qui ont eu lieu ces dernières années. Les citoyens et citoyennes veulent avoir leur mot à dire et n'hésitent plus par exemple à partager et faire signer massivement des pétitions qui seront examinées à l'Assemblée nationale. Une pétition lancée en septembre 2021 pour demander la régulation de la pratique de la chasse, 122 000 signatures. À l'été 2025, la pétition contre la loi Duplomb a recueilli le record de 1,2 million de signatures. Et elle était portée par une étudiante de 23 ans. Des pétitions qui ont fait voix au sein de l'Assemblée nationale, même si certaines n'ont pas été examinées comme celle pour la dissolution de la Brave M, Accusé de violences policières graves, qui avait pourtant récolté au printemps 2023 230 000 signatures, ou encore la plus récente, au moment de l'écriture de cet épisode, au 17 avril 2026, qui dénonce la loi Yadan, classée sans suite alors qu'elle avait réuni 700 000 signatures. Finalement, si les réseaux sociaux et les algorithmes inquiètent à cause de leur potentiel de manipulation de l'information, c'est à double tranchant. Puisque c'est massivement sur les réseaux sociaux que les mobilisations à signer les pétitions ont trouvé place. Finalement, les énergies sont encore bel et bien là. Même si les mobilisations citoyennes ne prennent plus autant en 2026 la forme de marche pour le climat ou d'un engouement pour la fripe, la réduction des déchets, le minimalisme, etc., etc., comme lors des années 2010, elles trouvent une nouvelle place en ligne au travers de partages d'informations sur les réseaux sociaux, d'articles de médias indépendants et de pétitions à signer, avec l'espoir qu'elles soient examinées à l'Assemblée nationale. Finalement, contrairement à ce que j'en percevais au début de cette enquête, les forces ne sont pas essoufflées. Elles ont muté. En tout cas en partie, ils n'ignoreront pas que les assos comme Zero Waste continuent de rassembler du monde, de sensibiliser les plus jeunes, et des projets de seconde main accessibles à toutes les bourses continuent d'émerger. Par contre, ces considérations sont loin de faire l'unanimité au sein de la population. Avoir la tripolarisation de l'espace politique en trois blocs, la présence de ce bloc qui se voulait ni de droite ni de gauche en 2017, mû par un libéralisme économique qui dénonce aujourd'hui les dangers des extrêmes, de l'autre côté, une gauche plurielle, composée de plusieurs partis qui peinent à se rassembler sur le long terme au sein d'une NUPES puis d'un nouveau Front Populaire, souvent essentialisée à LFI, dont la récente qualification d'extrême gauche par le Conseil d'État rebat la cohésion de l'aile gauche. Et de l'autre côté, une extrême droite qui rassemble de plus en plus de suffrages, en plus de récupérer des membres éminents du Parti des Républicains qui font grossir leur rang. Comment, aujourd'hui, fédérer tous les citoyens et les citoyennes autour de cet enjeu climatique qui nous concerne tous ? Comment repenser les luttes de l'avenir ? Le clivage politique doit-il être entretenu ou au contraire, doit-on soigner la cohésion sociale dans le pays ? Qu'est-ce qu'on doit finalement changer dans notre approche à l'autre, à l'individu, pour désamorcer les tensions qu'on traverse actuellement dans notre société, pour s'unir face à la montée du thermomètre ? Comment mobiliser toutes les forces vives sur les questions environnementales et du droit des personnes dans ce contexte de réchauffement climatique? Et finalement, notre première question en ouverture de cette trilogie, comment nourrir nos imaginaires futuristes pour cultiver l'espoir et donner l'envie d'avancer? On en parle dans les deux derniers épisodes de Génération plus 3 degrés. Génération plus 3 degrés, une série originale Radio Phoenix, Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans. Avec le soutien de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix.